Et merci de votre présence à cette table ronde de zone franche. Je vous prie tout d'abord de bien vouloir excuser deux de nos intervenants, Pierre Dubois, qui nous rejoindra tout à l'heure quand il aura terminé ses agapes de milieu de journée. Vous savez que Pierre Dubois, quelque part, c'est un ogre littéraire, alors évidemment, le repas, et en particulier le repas de midi pour lui, c'est extrêmement important. Et puis, on attendra aussi notre ethnologue, M. Camus, qui va nous rejoindre. Je pense là aussi que c'est quelqu'un qui nous apportera un regard. On aurait pu démarrer cette table ronde par lui. On la conclura au plus exactement. On fera passer l'ensemble de nos intervenants avant de lui donner la parole. C'est une façon plus ou moins heureuse et astucieuse de gérer le léger retard de nos deux invités. Des auteurs de science-fiction. À cette table, on avait donc dit un conteur, un ethnologue, et puis trois écrivains qui sont trois auteurs heureux. Est-ce que c'est l'effet du hasard ou est-ce que les sorcières, ça intéresse particulièrement les femmes? Peut-être d'abord parce qu'elles ont été victimes des chasses aux sorcières, pas les seules victimes, mais les victimes majoritaires et prioritaires, ou parce que le statut des femmes, à travers les époques, fait que la femme est une égale de l'homme, pas tout à fait encore, mais c'est en route, ou alors la femme, c'est une mauvaise femme, une sorcière. Peut-être que pour rentrer donc dans ce débat, on va voir donc trois auteurs, Viviane Etrivert, voilà, vous cherchez, Anne Fakouri, et puis notre troisième intervenante de la fiction, Cécile Billot. Le mieux peut-être pour parler de sorcière, c'est tout simplement d'entrer le medias res dans le vif du sujet. Et entrer dans le vif du sujet, c'est tout simplement lire un court extrait de ses ouvrages, donc Masqui de Viviane Etrivert aux éditions Argenteuil. Agazusa la sorcière, la chevausseuse de haies, risque-t-elle un œil, espérant envahir la maison avant que le vaillant petit Dedek ne la chasse? Ou est-ce un fantôme, une dame blanche fluide, vaporeuse, gracieuse, soupirant sur un ancien amour, sur un destin cruel que le vent emporte? On va répondre à la question toujours dans le même ouvrage, un petit peu plus loin, et là on change de ton et on entre dans le vif du sujet. Le juge questionna de plus belle le pauvre hérisson, plus confus que jamais. Il lui montra les instruments de torture, le menaça, jura de goûter à la torture toute la ville, interrogea encore ces gens qui affirmèrent n'être au courant de rien, et fit dresser procès-verbal des événements mystérieux par Jarosnoska, son secrétaire. Il se jeta sur l'épée Malleus Maleficarum de Sprenger et Instituris, publiée en 1486, et il en tourna les pages tard dans la nuit pour y trouver des conseils. Un livre fou, ce marteau des sorcières, empli d'idées et de croyances étranges, brutales. Ses rédacteurs étaient superstitieux, peureux, imaginatifs, incultes. Un monceau d'ânerie, un monument de crédulité à la gloire de la bêtise des anciens, des autorités, des dindons en robe noire vilipendés par Rabelais. Comment des gens intelligents, sensés, ont-ils pu l'utiliser, sauf à penser qu'ils poursuivaient des buts personnels? Vas-y, juge Stéphane Ria, onavra-t-il. Comme tant d'autres, plonge dans cette boue infâme, choisit des arguments peaufinés pour accuser des méthodes immorales et choquantes. Ce fut ainsi que la chasse au hérisson s'ouvrit avec lui. Inquisition, torture, aveu, dénonciation, on est dans le vif du sujet, on est dans cette période de notre histoire européenne où la chasse aux sorcières est une institution et un moyen en particulier un moyen pour l'Église catholique, romaine et apostolique d'imposer sa domination. Je précise pour vous, peu de connaissances historiques que je peux vous faire partager, parce que je ne suis pas une spécialiste de la question, c'est que justement, ce marteau des sorcières était tellement absurde, abominable et inculte que même l'Église catholique, les inquisiteurs, le pape finiront par le retirer en estimant que ça n'est pas un instrument scientifique de la chasse aux sorcières. Alors, Viviane Étrivert, pourquoi vous avez choisi les sorcières comme personnage de votre roman?
La sorcière, c'est quelque chose qui est profondément, c'est un archétype, qui est profondément attaché à la nature de la femme. L'archétype, au sens de Jung, c'est un personnage dans lequel s'incarne la nature de la femme ou de l'homme à un moment donné de son existence. La jeune femme, la jeune sorcière, celle qui séduit et qui fascine. L'amour, c'est aussi celle, la vieille femme, celle qui fait peur et qui est une figure de la mort. Et on retrouve la puissance des archétypes au travers de ces procès. Et j'ai voulu effectivement écrire, parce que j'adore le fantastique sur la sorcière, mais ce qui s'est passé, c'est que plus je creusais l'histoire de la sorcellerie et ce qui s'est passé réellement en Europe, plus je me détachais de ce qui était en surface et de ce que l'on croit, pour voir qu'il y avait d'autres réalités. Et j'ai recherché l'être humain derrière la figure anonyme de la sorcière. La sorcière n'a pas de nom, elle s'appelle Gaïa. On l'appelle comme ça lors des procès. Elle n'a plus de nom, elle n'a pas de voix. Et les historiens l'ont recherchée et ont essayé de trouver qui était cette femme qui était accusée. Et qu'est-ce qu'elle voulait réellement dire derrière ces procès en latin?
Autre vision de la sorcière, une vision plus contemporaine, avec Anne Fabot. L'esprit de l'homme n'était qu'un long tunnel de souffrance. À peine endormi, Z chercha un point de lumière auquel s'accrocher. Le tourbillon dans lequel elle était entraînée s'opacifia. L'homme n'était pas conscient. Ce n'était pas un esprit en plein sommeil qui aurait pu sentir sa présence et se défendre. Il était bien plongé dans le coma. Le monde du sommeil, qu'il avait créé pour faire survivre son esprit déconnecté de son cerveau, n'utilisait pas le chaos comme une façon de se défouler de ses peurs. Il était chaos. Ce rêve, dans lequel Z avait été jeté comme une balle de ping-pong au milieu d'un cyclone, brouillait de silhouettes sombres. Elle pouvait sentir la douleur percer la barrière d'habitude épaisse du monde du sommeil. Elle n'eut alors qu'une idée fixe, sortir de l'esprit de l'homme, s'échapper de la tempête, de son inconscient visiblement malade, mais son propre esprit, happé, ballotté, écrasé par la masse furieuse des vents contradictoires, avait du mal à lutter. Z réunit toutes ses forces pour se réveiller. Elle voulut visualiser son corps endormi sur le fauteuil, dans la chambre grise, à côté du corps de l'inconnu. La projection tint un temps infime. Elle se vit allongée sur le lit, attachée par des sangles, un bâillon de métal sur la bouche. Le lit était archaïque, tout en fer, et d'énormes seringues, des ustensiles en cuivre, traînés sur une cuvette emplie d'eau rougie par le sang. Des doigts froids parcoururent ses bras immobilisés, cherchant une veine, une entaille. Elle voulut hurler, parler ou raisonner ceux qui la maintenaient dans cet état d'impuissance totale, mais le bâillon ne lui permit de moduler qu'un son animal. Elle se contorsionna avec force, jusqu'à sentir les liens s'assouplir sous ses muscles. Quand elle réussit enfin à s'en extraire, elle se retrouva dans le cyclone chaotique. Les formes se pressèrent autour d'elle, avides, comme pour boire ses souffrances, et lui en infliger de nouvelles. Un partage, un simulacre de partage. Tout ce qu'elle connaissait, la lente progression dans l'esprit de l'autre, la recherche d'un corps étranger créé dans un monde qui lui était propre, n'était plus qu'une caricature grotesque et douloureuse. Le partage ici était celui de l'horreur. L'échange n'était que la longue absorption de son esprit guérisseur par un esprit fou, désespéré et destructeur. Elle n'avait jamais rien connu de tel. Voilà, on est plongé. Là aussi, on dirait presque une séance de torture, mais là, on est plus dans la torture psychique quand même.
Tout à fait.
Pourquoi cette vision moderne, contemporaine de la sorcière? Pourquoi ce thème que vous traitez de façon très différente du roman de Viviane Étrivert? pourquoi ça vous a intéressé, pourquoi ça vous a donné envie d'en faire un personnage essentiel de Marco Jeunesse, pardon.
À l'origine de Marco Jeunesse, qui est un thriller fantastique, il y a une histoire familiale qui commence au milieu du 19e siècle, et l'histoire d'une femme qui essaye de sortir de sa condition, justement, assez misérable, sa condition de sorcière. Je suis partie sur la sorcière herboriste, c'est celle qui guérit, la sage-femme aussi. Et le moyen de sortir de cette condition, c'était évidemment de profiter de la révolution industrielle, et donc de créer un empire industriel à partir de l'herboristerie. Et ce que je trouvais intéressant, justement, c'est de faire évoluer ces sorcières dans notre histoire et de montrer comment la sorcière herboriste était devenue une sorcière infirmière. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a rationalisé, évidemment, à partir du moment aussi où on est sorti de l'emprise chrétienne, sociale, l'image des sorcières a changé. Et donc, j'ai voulu faire évoluer le personnage de la sorcière avec un fond aussi psychanalytique où le don devient quelque chose qu'on cache au profit de la réussite sociale, au profit de cette industrialisation et un don qui ressurgit. Voilà, donc à la base, il y a vraiment cette histoire familiale et je voulais montrer aussi comment le don de la sorcière évolue et reste transmuté malgré soi. Bon, après,
troisième entrée dans notre thème, le tome 1 de Fille des Quatre, La Voix de la Sorcière de Cécile Guyon. Et là, on va le voir, c'est pas du tout une nature de sorcière. Alors que le dimanche ne s'annonçait guère plus clément, je décidai qu'il était temps de pratiquer un peu d'introspection, histoire de commencer ma nouvelle vie de sorcière sur de bonnes bases. Assis en tailleur, avec le chaton entre les cuisses, je réfléchis à mon existence. Avait déjà manifesté des dons de l'ordinaire. J'avais toujours été très empathique à l'égard d'autrui, et ce, dès mon plus jeune âge. Je savais tout de suite quand maman n'allait pas bien, et je la consolais tendrement. Mais en soi, cela ne paraissait pas si exceptionnel. J'étais une petite fille grave et mature, en apparence, et cela tenait sans doute à mon histoire. Je croyais me rappeler une certaine attirance vers l'imaginaire et le fantastique. Le fantasque que mes parents avaient tout fait de canaliser, instillant en moi un certain rationalisme. Voilà sans doute pourquoi je me sentais si ambivalente quant à l'ésotérisme. En fillette, obéissante et docile, j'avais tenté d'intégrer le mode de pensée familial. Freud y aurait vu un conflit entre mon moi et mon surmoi. Alors, on n'est pas tout à fait dans la même logique, on n'est plus dans le drame, on n'est pas dans la violence, on n'est pas dans l'angoisse. Une sorcière sympa que vous présentez, Cécile Guyon.
Oui, en fait, j'avais envie de parler de la Wicca. Donc, pour faire rapide, la Wicca se base en fait sur tout le folklore païen, en fait. Donc, ça reprend des bases du druidisme, d'autres mythologies. Et c'est en fait un courant assez syncrétique qui reprend aussi certains éléments de la pensée orientale. Et je pense que vraiment l'important dans la Wicca, c'est on n'est pas dans le bien et le mal comme on peut l'être avec la sorcière liée au diable. C'est vraiment le dieu et la déesse, donc une polarité féminine et masculine. Vraiment le côté à la nature, les forces créatrices et destructrices. Donc là, on est plus avec une sorcière qui est dans une recherche spirituelle, une recherche d'équilibre, une recherche aussi de ses origines à la fois identitaires, mais aussi de tout ce qui nous lie finalement au monde, à la nature, donc avec toute l'importance que peut revêtir le cycle des saisons, les célébrations. Donc on voit beaucoup dans mon roman ce qu'on appelle les sabbats, mais en fait les fêtes païennes, c'est vraiment on rend grâce à la saison, c'est aussi un moment d'introspection, faire un point sur soi, sur son évolution. Et j'avais envie de présenter cet aspect de la sorcière, donc c'est vrai que c'est plutôt une image, on va dire, positive, en tout cas même un modèle d'idéalisation pour les jeunes lectrices, hein, puisque là on est vraiment dans la recherche de la sagesse, de l'équilibre, de l'harmonie. Et voilà, donc c'était plus ça que j'avais envie de présenter, tout en, du coup, en, c'est aussi finalement une quête identitaire et une façon aussi de parler de, du personnage en lui-même, de sa psychologie et de sa maturité, de son avancée finalement dans la vie et vers l'âge adulte. Voilà.
On va revenir avec Anne Fagouri tout à l'heure, on parlera aussi à nouveau avec Diane Trivert sur leur conception de la sorcière, l'une plus ancienne et l'autre plus moderne, un premier roman très plus du côté de la fantasy, je pense, pour la qualité de telle, et un roman qui s'assume comme roman fantastique. Mais là, on venait d'en parler, votre sorcière, elle est complètement à contrario des deux autres. C'est-à-dire qu'elle n'est ni une mauvaise sorcière préparant, se garantissant par le pouvoir, se protégeant, mauvaise, on verra après, et ce n'est pas non plus une victime, comme elle peut l'être, par exemple, dans le roman de Diane Trivert, menacée par l'inquisition et la répression, mais on a affaire là à une sorcière positive, une sorcière qui, au-delà du mythe christique, chrétien et religieux que nous connaissons en Occident, retourne aux sources du paganisme. C'est une sorcière optimiste, en quelque sorte, que vous proposez.
Oui, sans doute, mais je pense que toute personne est à la recherche d'un équilibre, d'une sorte de réussite dans sa vie. Donc, pour moi, c'était assez logique de présenter cet aspect-là. Et c'est vrai que c'est un courant qui prend de plus en plus de place dans notre société. Donc, de plus en plus de personnes se disent wiccanes. Donc, apparemment, il y aurait 10 000 wiccans en France. Donc, après, les chiffres, voilà, c'est discutable, on ne sait pas trop. Mais de nombreuses personnes, en fait, essayent de trouver leur voie, justement, à travers ce courant-là, ou d'autres courants issus du paganisme, bien sûr, parce qu'il n'y a pas que la wicca, il y a encore le druidisme, encore plein d'autres choses. Mais après, voilà, c'est quelque chose qui se développe de plus en plus, et donc c'est pour ça que j'avais envie de l'intégrer dans une fiction, mais du coup en basant quand même sur les réalités justement de ce courant qui devient de plus en plus important en France et qui est déjà très développé aussi aux États-Unis en fait. Même aux États-Unis en fait, la Wicca est reconnue comme une religion à part entière en fait.
Donc c'est Guyot, si je comprends bien, votre personnage, en tout cas votre roman, cette série, c'est une trilogie,
oui.
C'est le premier volume. Vous m'avez parlé tout à l'heure de sagesse, d'équilibre et d'harmonie. C'est pas exactement ce qu'on entend d'habitude quand on évoque la sorcière. Donc vous êtes complètement à contre-courant. Est-ce que c'est une... On va parler de postmodernisme, mais est-ce que c'est une façon, quelque part, sinon de gommer, du moins de tourner la page judéo-chrétienne?
Tourner la page, peut-être pas, ça me paraît assez compliqué. Mais de toute façon, même quand on pense aux sorcières qui ont été persécutées, je pense que l'important c'est le pouvoir qu'on peut accorder aux femmes et la peur qu'on peut avoir face à ce pouvoir. Donc finalement, c'est un peu la même chose, sauf que là, peut-être j'enlève le côté justement un peu effrayant de la féminité pour en garder que les aspects positifs. Enfin, c'est une supposition. Mais je pense que, en tout cas, il y a toujours cette histoire de pouvoir féminin qui se retrouve, que ce soit au Moyen-Âge ou plus tard, et de nos jours aussi.
Viviane Trivert, la chasse aux sorcières, trouve dans votre roman. Est-ce que justement c'est cette peur de la féminité qui s'exprime au Moyen-Âge et dans la répression que mène l'Église catholique romaine et apostolique?
Alors ça c'est tout à fait manifeste. Quatre femmes pour un homme, et je ne parle pas des animaux et des enfants qui ont été brûlés et torturés. Hein. Donc en fait, visiblement, les religions du livre ont un problème avec les femmes. Et il faut quand même savoir que la religion catholique, à cet égard, reconnaît plus la place de la femme que les religions protestantes. Il faut savoir aussi que les protestants ont autant massacré de sorcières et de sorciers que les catholiques, et même qu'ils ont été plus durs pour les femmes en ne lui offrant pas d'archétype féminin assez fort. on a quand même la Vierge Marie chez les catholiques qui permet aux femmes d'avoir une image. Elle n'est pas assez forte. C'est pas une déesse assez puissante. Elle est trop faible. Bien sûr, elle est à la naissance, mais on a enlevé déjà l'amour en lui donnant juste l'ange Gabriel et pas un vrai homme. Et puis, on a fait de son époux un cocu. Et puis, elle est quand même là pour la mort du Dieu. Donc, elle a les attributs de la déesse ancienne. On est là sur du paganisme qui est effacé, mais je dirais que les protestants ont été encore plus durs en chassant la Vierge Marie, parce qu'ils n'ont plus du tout de figure féminine. Et je dirais qu'on rapprochait donc de la Wicca, qu'en fait les sorcières sont accusées lors de ces procès pratiquent largement une magie qu'on peut appeler blanche. Et ce sont notamment des rites de réparation, par exemple des rites qui sont tournés vers le fait de recueillir les morts et lors de la danse macabre, lors des rites de Yule, et de les réconcilier avec les vivants de façon à ce que tout soit pardonné et que les vivants puissent dormir en paix et que les morts puissent partir et ne causent pas de tort aux récoltes ou aux enfants qui naissent ou au lait des vaches. Donc cette sorcellerie est très réparatrice, et cette sorcellerie réparatrice, elle était dissimulée, elle était cachée, elle n'a pas été mise en avant lors des procès. Et effectivement, c'est la peur des hommes devant des femmes. En Allemagne, il y a des villages qui sont complètement privés de leurs femmes. Toutes les femmes sont tuées, de mère en fille. Donc, on pense à un chamanisme dans lequel il y a des rites qui sont transmis de mère en fille.
Alpha Kobi, vous imaginez donc sorcières qui s'organisent dans une dynastie industrielle de façon à pouvoir avoir les moyens en quelque sorte de leurs ambitions. Mais vous, ces sorcières sont quand même des sorcières qui marginalisent, affaiblissent et éliminent l'homme en quelque sorte. Bon, en tout cas, bon, ce rapport ambigu, ils sont soupçonnés de le faire. Vous jouez visiblement à la fois sur la tradition négative de la sorcière. Et puis aussi, on va pas révéler, parce que ce serait trop facile après de lire certaines choses sur le roman, vous ouvrez aussi d'autres pistes. On a l'impression que c'est un roman ambigu sur la place des femmes. Je retrouve.
Alors, c'est un roman ambigu parce que c'est un roman sur plusieurs parties. Il y a plusieurs thèmes dans l'arc de Genèse. La sorcière, évidemment, enfin, la place de la femme sorcière en est un, mais aussi la maternité. Dans l'ambiguïté sociale absolue et avec un souci de non-jugement, voilà, absolu. L'ambiguïté de la femme, en tant que sorcière, oui, non, moi je n'ai pas de connaissances historiques de la sorcière et je n'ai pas cherché à en avoir pour ce roman. J'ai voulu vraiment me baser sur l'image de la sorcière qu'on a tous, c'est-à-dire d'un côté la sorcière littéraire, la sorcière des histoires pour enfants. Et puis, ce qu'on sait nous, c'est-à-dire que les sorcières, évidemment, avant, étaient des femmes comme les autres, qui étaient diabolisées, associées à des pratiques négatives, ce que Vivien vient de dire. Donc, c'était vraiment sur cette image-là que je voulais construire mes personnages, celle qu'on a tous de la sorcière. Donc, ambiguë, oui et non, mais je pense que l'ambiguïté vient plus du thème de la maternité que de celui de la sorcière, puisque dans l'arcogenèse, les sorcières d'abord ne sont absolument pas négatives, elles sont même là pour aider, puisque Zed, le personnage principal, rentre dans l'esprit des gens qui sont plongés dans le coma pour leur permettre de choisir entre la vie et la mort. Les autres ont d'autres dons, la mère de Zed refuse complètement son don, donc elle, tout ce qu'elle sait faire, c'est des gâteaux ratés. En fait, à chaque fois qu'elle essaye de faire la cuisine, qui est une espèce de base de sorcellerie, elle fait autre chose, voilà. Et le don de sorcellerie est plus ou moins assumé, plus ou moins révélé. De la même façon que la féminité dans l'arc de Genèse est plus ou moins assumée, plus ou moins révélée, donc la maternité plus ou moins révélée, et voilà. Mais la sorcière d'origine dans l'arc de Genèse, qui est la sorcière du 19e siècle, elle est sorcière, enfin, et qu'on voit quand elle est jeune, et surtout une victime. Elle vit complètement à l'écart d'un village, elle est diabolisée. Mais je me suis beaucoup inspirée de l'image qu'on avait aussi communément au début du 20e siècle dans les villages. J'ai une grand-mère qui est née en 1902 et qui me parlait, la Pierre Dubois, je pense, pourra peut-être nous éclairer, du petit Albert et du grand Albert au début du XXe siècle, qui dans les villages était soi-disant un livre de sorcellerie. Et pour elle, enfant, c'était un livre de sorcellerie jusqu'au moment où elle s'est aperçue évidemment que c'était presque un livre de pratique vétérinaire, de choses comme ça. Donc voilà, j'ai voulu jouer plus sur l'image de la sorcière telle qu'on l'avait communément et pas en tant que spécialiste.
On a donc trois versions de la sorcière, une version, je dirais, qui puise dans l'histoire et la tradition. Bien à travers, c'est la vôtre, celle des sorcières persécutées, traquées de la Renaissance, plus d'ailleurs du Moyen Âge. Et puis, vous venez de dire, c'est 19e, cette tradition, mais aussi 20e siècle, le moment où se déroule quand même Marcos. Et le troisième type de sorcière, c'est le vôtre, c'est-à-dire une sorcière positive, une sorcière blanche, une sorcière heureuse, une sorcière affirmée, qui est celle de la Wicca. Dominique Camus, vous êtes donc ethnologue, sociologue et historien. Quel est votre regard à vous? Parce que là, on a vu trois regards d'écrivaines, d'auteurs. Quel est le regard du scientifique, de l'historien, du sociologue?
Le regard, il est simple. Il n'y a pas une sorcière, il y a des sorcières. Il y a une sorcière qui a été mythifiée, qui ne correspond strictement à aucune réalité sociologique et historique, qui est la sorcière du 19e, c'est de Michelet. Et il faut savoir que Michelet, quand il a écrit le fameux bouquin, la sorcière, c'était un historien vieillissant qui n'était plus lui, dont en fait ses pères ne s'intéressaient plus trop, qui cherchait quand même une veine littéraire et qui, alors peut-être c'est ça qui va le réhabiliter aux yeux de certains, voulait en tout cas faire un texte pour montrer la place de la femme dans cette société industrielle qui se mettait en place et où elle était effectivement menu frottin, que les hommes en tout cas, il avait cette fibre féminine. Et donc, il cherchait comment attirer l'attention sur la place de la femme à son époque. Et du coup, il y a partie de l'idée que s'il militait sur la femme à ce moment-là, en fait, sa voix serait un peu l'écho, parce qu'en fait, il n'était pas le seul, hein, il y avait déjà des gens qui militaient là-dessus. Donc, du coup, son idée, ça a été de dire, mais en fait, la femme n'a jamais été aimée chez nous, déjà depuis plusieurs siècles. Et donc là, il a repris en fait sa vieille toge d'historien, donc de celui qui est pourvu du savoir, en disant mais moi je sais quelle est l'histoire de France que vous avez oubliée. Et en fait, voilà, la sorcière est devenue l'archétype du mal-aimé. Donc il a fallu qu'il construise cette sorcière et il a pris une sorcière sur trois siècles qu'il a mythifiée et qu'il a mis en scène comme ça au fil du temps. La veine littéraire est très bien. Il n'y a pas de problème. Historiquement, ça correspond strictement à rien. Ça va de soi. De même qu'effectivement, cette sorcière, cette femme, que l'on voit plus exactement dans le Malus Magnificarum, est une femme très précise dans l'idée d'une certaine élite de l'époque. Les instituteurs espagnols n'étaient pas des animés, des hallucinés. C'était des éminemment. Éminemment reconnus, des scientifiques de leur temps. Alors, c'est vrai que ça peut nous faire périsser de lire ces textes. Mais il faut savoir que, quand même, c'est l'état d'esprit de l'époque. Tous les grands penseurs de l'époque sont à peu près d'accord sur le sujet. Donc, voilà, autre temps, autre mœurs. Il faut quand même resituer les choses dans leur époque. Et c'est vrai que là, nous avons des gens qui ne s'intéressent pas forcément à la sorcière, mais qui essaient de réfléchir dans un monde en mutation sur la place que va prendre la femme. Et quand on. Et ce qui est frappant, quand on lit les procès de sorcellerie, mais qu'on les lit tout simplement feuillet par feuillet, c'est qu'en fait, les juges, que ce soit d'Astitoris à deux siècles plus tard, de Gay, n'en ont quasiment strictement rien à faire de la sorcellerie telle qu'elle se pratique auprès du peuple, où les inculpés disent comment ils font, qui pour faire crever le bétail, qui pour soigner quelqu'un de malade, qui pour attirer la pluie sur ses récoltes et voir propager la grêle sur celle du voisin. Ça ne les intéresse pas du tout, ça. Les gens, ils s'en foutent éperdument. Tout ça, c'est archi connu déjà depuis l'Antiquité gréco-romaine, déjà il y a des textes. Ce qui les intéresse, c'est autre chose. C'est vous, femmes, Qui vous a donné ces facultés? Quelle place avez-vous auprès du démon? Et ça, c'est, on a vraiment deux sorcières, enfin deux types d'image de la sorcière, celle des intellectuels dans laquelle le peuple ne se reconnaît pas du tout, ne comprend rien. Donc il veut bien dire oui à ce qu'on lui a fait. Et puis la magicienne, pourrait-on dire, plus exactement populaire, qui elle veut bien décrire ses façons de faire, parce que ces façons de faire ne sont pas secrètes, tout le monde les connaît au village. Et d'ailleurs, le premier élément d'un procès de sorcellerie, pour savoir dans les procès de sorcellerie, c'est bien qu'ils parlent de quelque chose, c'est le bruit commun, la rumeur, un tel a bruit commun d'être sorcier. Et donc là, il va y avoir une inquisition, une enquête, hein, sur le bien fondé de ce bruit commun. Les gens ne se cachent pas. Ben oui, ils connaissent des rituels, des recettes pour attirer la prospérité sur leur bétail. Leur bétail, c'est une vache, parce qu'à l'époque, c'était pas, les gens n'avaient pas des troupeaux, c'était vraiment très peu de choses. C'était vraiment, voilà, les sorciers ou sorcières. Alors, là, quand je m'insurgeais tout à l'heure, j'ai entendu dire 4 femmes sur 5, c'est pas vrai. Non. Qu'il y a eu trop de femmes de brûlées, oui. On est bien d'accord, de toute façon il y a eu trop de brûlés courts, mais en gros on va dire 3 sur 5 maximum. L'image de la sorcière a été surévaluée, surestimée, mais ça suite à cette image modifiée du 19e siècle, véhiculée par Michelet. La réalité c'est pas ça. Faut pas... De même, la réalité de la vieille femme dite sorcière, c'est pas ça. Il y a deux images de la sorcière. La sorcière mythifier aussi des juges et essayer de réfléchir sur la place de la femme dans la société au moment où il y avait une mutation et où il y avait un débat théologique très important dans l'Église catholique. Là, du coup, c'était cette image de la féminité qui commençait à se mettre en place. Donc, c'était la jeune femme qui était pointée du doigt. Dans les villages, c'était pas ça. L'espérance de vie, à l'époque, c'était pas 40 ans. Il ne faut pas oublier ça. Donc, quand on dit la sorcière, la vieille femme, c'était des femmes qui avaient 35 ans. C'était les gars de 30 ans, c'était les gars de 100 ans, donc c'était des gens qui étaient déjà veuves à la trentaine. Et des veuves avec des familles nombreuses. Le gros problème, la transmission du patrimoine. Où allait-il aller? Et donc c'était ça qui était autour des procès de sorcière, qui est devenu l'image de la sorcière. Et quand on regarde qui sont ces femmes ou ces hommes, donc je reviens, accusés de sorcellerie, là aussi, autre idée rejetée. C'est pas les bohémiens, c'est pas les gens qui vivent en marge de la collectivité. Ça, c'est 19e, c'est Michelet, c'est donc les mariages de vivre réhabilité dans cette période humanisme. Ce sont des gens déjà qui ont un peu de bien, des gens qui ont une ou deux vaches, qui ont quelques arts, et avoir quelques arts pour faire paître ses vaches, ça veut dire enfin pouvoir maîtriser sa production, parce qu'à l'époque, c'était les seigneurs qui avaient la production, donc il y avait les précommunes, et où là, c'était très réglementé. Donc c'était des gens qui commençaient à avoir un embryon, on dirait maintenant des capitales de richesse, donc avoir un tout petit peu de terre, pouvoir faire son propre potager, avoir sa chaumière et être maître de son toit. Le principal, le seigneur qui paye le toit. Donc là, il y avait déjà de la richesse qui pouvait circuler dans les familles au décès des uns et des autres. Et quand on voit les procès de sorcellerie de l'époque, entre le milieu du 15e et jusqu'à la fin du 17e, c'est toujours entre voisins. Entre voisins, justement, qui sont en business, hein, sur des biens qui doivent circuler ou la circulation paraît, alors tu as raison, hein, après, on va pas rentrer dans les détails, mais qui paraît bloqué, ne pas aller là où ils doivent aller. Et donc, du coup, on invoque un moyen. Donc, on est quand même assez loin de cette image un peu romantique, etc. À cette époque-là, après que la sorcière romantique, elle est jusqu'à nos jours. Les années 60, le féminisme des années 60, la sorcière, c'est l'image emblématique. La première grande revue féministe, c'est la revue Sorcière. Donc, pourquoi? Parce qu'on a une image comme ça, archétypale de l'être opprimé. Avant, il y avait eu Zola avec son petit peuple. Ça fait pas fleurir, il vaut mieux quand même une belle femme opprimée. C'est quand même un peu plus racoleur, et donc tout cet emblème du féminisme qui va perdurer, que l'on va retrouver. Mais ça, les Juifs, ça ne les intéressait pas. la sorcellerie au quotidien, ils s'en foutaient éperdument. Et d'ailleurs, les gens n'étaient pas jugés sur ce fait-là. Les procès de sorcellerie, quand on lit les actes, les juges, ça les marre. Oui, bon, alors, bon, ok, très bien, on en vient. Alors, au fait, qu'est-ce qui s'est passé au sabbat? Pourquoi? Ah, au sabbat, quand vous avez rencontré le diable. Ah, c'était ça qui les intéressait. Pourquoi? Eh bien, parce que c'était un mouvement à l'époque où l'Église était en pleine mutation et où progressivement, quand même en gros 4 siècles, hein, du 12e au 17e, hein, a germé une idée comme ça qu'il y avait un complot démoniaque qui s'est mis en place progressivement. Donc c'est une scénographie qui a mis plusieurs siècles à s'écrire, où les actes sont emboîtés les uns les autres. Et quand cette scénographie a été terminée, quand la scénographie du sabbat complet a été terminée, eh bien, l'Église avait enfin, on va dire, achevé sa mue, en quelque sorte, enfin, réglé ses problèmes théologiques, et on est passé à autre chose. Premièrement, il y a toujours des réfractaires, l'Église n'a jamais marché d'un seul pas unifié, mais là, il y avait un consensus qui s'était fait suffisamment pour que l'on avance. Alors, évidemment, ça a été au détriment de certains, et c'est vrai que quand on dit dans la Renaissance, le siècle des Lumières, la pensée, la raison, etc., eh bien, c'est effectivement là où s'est mis en place peut-être le plus durement dans l'histoire de la société occidentale. Je parle pour la France, même si après, on fait un petit peu le découpage entre les communs et les protestants. C'est là où il y a vraiment eu cette répression la plus pesante, la plus lourde et la plus argumentée vis-à-vis des femmes. Vraiment, la Renaissance, c'était vraiment la misogynie qui se mettait en place.
Eh bien, merci. Merci Dominique Camus pour cet éclairage. Viviane, j'ai vu que vous vouliez juste réagir sur un point en deux mots, et après on va demander évidemment l'éclairage de Pierre Dubois. Je lui poserai une petite question sur le conte, évidemment.
Oui, effectivement, beaucoup de choses que vous dites sont tout à fait justes. L'Église catholique avait imaginé une Église inverse et elle la mettait en œuvre au travers de... Enfin, elle l'a dessinée et elle l'a imposée aux sorcières. Ceci dit, il y a une chose sur laquelle je ne suis pas très d'accord. C'est le fait que quand ça se produisait, ces procès, ce n'était pas si clair. Et il y avait des gens qui défendaient la sorcière. Il n'y avait pas que le juge avec son baratin latin. Il y avait aussi le médecin qui était là, et l'origine de la psychiatrie, donc c'est au pied de la sorcellerie. Au Moyen-Âge également, on a des autorités qui parlent clairement d'illusions pour le voyage fantastique, le voyage nocturne. Donc je ne serais pas aussi abrupte que vous là-dessus. Je pense qu'il y avait des choses très très passionnantes qui se sont passées, et que ce n'était pas si clair.
D'accord avec ça?
Oui, sans doute, c'était pas si clair, mais il y avait un grand décalage chez nous entre la façon dont l'Église voyait les choses et dans la façon dont les gens étaient jugés. Je parle sur la France. Les juges étaient des laïcs. Il ne faut pas oublier ça. On se ferait vraiment berner, on ferait une illusion que ce n'était pas l'Église qui jugeait, pas en France. Que l'Église, son rôle, puisqu'il y avait ces théologiens, mais face à l'illusion tout à l'heure, c'est comme ça, c'était de par leur connaissance du sujet, d'aider les juges laïcs, qui étaient des sénéchaux, tout simplement, c'était des sergents, hein, les aider dans leur discernement. Et ce discernement, parfois, n'allait pas dans le sens de l'Église. L'Église, sur cette histoire de les sorciers pour se déplacer dans l'esprit, pour aller au sabbat. Donc, l'Église a dit c'est absolument impossible au Moyen-Âge, non, c'était clair, c'est impossible. Hein. Là, on est d'accord, c'est ce qu'elle vient de dire. Après, ça a été ça, le gros problème de l'Église, elle a mis 4 siècles en gros par semaine, pour se mettre d'accord. Certains ont dit, pourquoi c'est impossible? Donc, cette notion, ce qu'on appelle le manichéisme, est apparue. L'idée dominante, c'était, c'est impossible. Seul Dieu permet ce genre de choses. Après, oui, peut-être, mais il faut voir. C'est là où, après, on a discuté sur, peut-être que ces gens peuvent s'illusionner. On ne parlait pas de psychiatrie, psychanalyse, ça c'est l'idée.
J'imagine. Juste un mot, Anne, et après...
Juste un mot, parce que je vais terminer, mais le point de vue idéal, je conseille un livre qui s'appelle Le dernier chasseur de sorcières de James Moreau, Diable Vauvert, qui reprend justement cette idée du siècle des Lumières et de la montée de la raison. Et on a deux points de vue dedans, le point de vue d'une sorcière accusée et de l'autre côté, le point de vue d'un manuscrit de Newton. Voilà, vous savez, en tout cas, un livre sur les sorcières.
Je confirme, Jess Porot est un écrivain d'une grande culture, d'un grand amour pour l'Occident et entre autres pour la révolution française et la raison. C'est sympathique quand ça nous vient des amis américains et en plus c'est un merveilleux romancier.
Et je confirme aussi, il y a eu des chasseurs de sorciers et de sorcières, très peu en France, mais beaucoup dans les pays anglo-saxons, pour aider les juges à savoir qui étaient ces gens-là.
Pierre Dubois, moi quand j'étais vraiment très jeune, je pleurais, j'ai jamais pu entendre vous savez, cette histoire de la sorcière qui fait manger la pomme, et ma mère me disait toujours, mais écoute la fin, tu vas voir, elle n'est pas vraiment morte, et je pleurais à chaudes larmes, et donc il m'a fallu de longues années pour que je puisse entendre vraiment jusqu'au bout l'histoire de Blanche-Neige. Alors, la sorcière dans Blanche-Neige, c'est emblématique du conte ou c'est vraiment ce conte-là?
La sorcière de Blanche-Neige, c'est l'hiver. On la retrouve un peu partout, cette sorcière dans les contes de fées. Elle représente la mère Gagache, elle représente la femme, elle représente l'hiver. Et en fait, il n'y aurait pas cette sorcière, il n'y aurait pas Blanche-Neige, elle ne rencontrerait pas son beau prince. Blanche-Neige, c'est le printemps, c'est la nature qui doit se renouveler, et la sorcière, qui a un mauvais rôle quelque part, malgré tout, elle l'aide à grandir. Je n'ai pas une vision très négative de la sorcière, bien au contraire, et encore moins la sorcière des contes de fées. C'est que c'est la nuit, c'est l'ombre, mais on en a besoin. C'est un personnage qui... Il n'y aurait pas la sorcière, il n'y a pas la fée. Et en fait, la fée, quelquefois, est sorcière. Et la sorcière devient la fée. Je peux en parler que, disons, sentimentalement de cette sorcière, parce que bon, je n'ai pas fait de... pas fait de grande recherche sur la sorcière en tant que telle, mais je l'ai rencontrée dans les contes de fées, et j'ai un livre que j'adore, et vraiment c'est un livre que j'ai toujours envie de lire et relire régulièrement, c'est le livre Willows de Sylvia Towson Warner, qui raconte l'histoire d'une vieille fille, c'est d'abord une jeune fille, elle est dans une maison, enfin dans une famille un peu coincée, un peu victorienne. Et elle n'a jamais été... elle est toute grise. Elle suit ce qu'on lui dit de faire. Et puis, on trouve qu'elle commence à vieillir un peu. On devrait lui donner un mari. Et les fiancés passent, ça n'intéresse pas. Et puis, il y en a un qui arrive et il est bègue. Donc, comme il est bègue, elle s'intéresse un peu à lui. Il est un peu différent. Et là... il est né en février, elle lui dit « Ah oui, février, c'est bien, c'est le mois des loups-garous. » Et petit à petit, elle se rend compte qu'elle n'est plus bien dans sa famille. Donc, elle va dans un village, dans les Chiltern. Et là, elle va faire ses courses. Et un jour, elle ne sait plus pourquoi elle va faire ses courses, et elle achète des feuilles de noisetier, un bouquet de feuilles de noisetier. Et petit à petit, elle va retrouver... la sorcière qui est en elle. Elle va petit à petit retrouver une féminité fermée, endormie, une société lui endormie, l'a un peu corsetée, et elle va rencontrer le diable qui est sous les traits d'un chasseur vert. Et j'adore cette image de la sorcière, et je pense que justement on a beaucoup ont cette sorcière en elle. Alors j'ai plusieurs, évidemment, expériences avec cette sorcière. Je peux parler que de ce que je ressens sur cette sorcière, mais lorsque j'étais petit, j'étais enfant, je descendais, c'est amusant parce que tu viens de parler de la sorcière de Blanche-Neige, et il y avait cette maison bachelardienne, hein, la maison avec le grenier, la cave, et il y avait le grenier où j'allais bien aller, et là c'était j'ai appris par la suite que le grenier, les anciens appelaient le grenier la sylphide, donc peut-être que les fées se tenaient au grenier avec les souvenirs d'enfance, avec le panier où il y avait les vieux vêtements, il y avait les vieilles poupées, j'étais rassuré. Et quand je descendais à la cave, il y avait l'entombement quelque part, mais on a tous un Merlin aussi, l'idée de l'entombement. On attend tous une sorcière vivianesque qui nous entombe une fois pour toutes. Et là, je rentrais dans ces ténèbres. Et curieusement, il y avait un livre qui était Blanche-Neige. C'était Blanche-Neige de Walt Disney avec la tête de la sorcière. Et je rentrais, je descendais, parce qu'il n'y avait pas de réfrigérateur à mon époque. Et donc, va chercher un bocal à cornichons à la cave, comme ça. Et je descendais déjà, alors avec cette espèce de sacralité, je savais qu'elle m'attendait en bas, cette sorcière, parce qu'elle était dans une armoire, et j'avais envie d'ouvrir cette porte et d'aller contempler ce visage grimaçant de la sorcière de Blanche-Neige avec sa pomme. Mais petit à petit, j'ai vaincu ma peur. En m'approchant d'elle et en la regardant, c'est devenu quelque chose de trouble. Et puis après, elle m'a aidé aussi à vaincre ma peur. La cave est devenue quelque chose, peut-être quand Merlin aussi descend dans la cave et sait qu'il va dans l'entendement, en même temps, il va communier avec la part de l'ombre, enfin, de la maison, d'une certaine féminité. Il faut regarder sous le masque, comme dans les contes de fées. Sous la sorcière, il y a la fée, et ça, c'est extrêmement important. C'est une fois, et surtout, ce que je voulais dire, c'est que ma mère, ma maman, ma mère était sorcière. C'est-à-dire qu'elle n'était pas une sorcière patentée, mais ma mère, lorsqu'elle te regardait, quand elle regardait dans les yeux, il va t'arriver ça arrivait. J'avais comme mère une sorcière. Voilà. Elle priait, c'était une païenne à la fois la caisse. Elle priait Saint-Antoine, comme je pense les sorcières, aller voir le bouc. C'était extraordinaire. Et je me souviens, excuse-moi, je te dis un tout petit truc, après je te vois. Je me souviens, par exemple, alors elle a dit des choses horribles, et il y a eu des morts terribles autour de moi, et j'en frémissais. Et autour de nous, on en frémissait. Une fois, on va dans un bistrot, dans un café en Belgique. Et comme elle était assez âgée, mais qu'elle voulait toujours être une Carmencita, une jolie Gina Lollobrigida, jusqu'à la fin, et à danser, et être une succube, il y a un monsieur qui dit: ah oui, vous êtes là avec le fils, et c'est peut-être. Vous n'êtes pas trop gênante pour lui. Et brusquement, elle l'a regardé. Elle lui a dit: peut-être que vous n'irez pas jusqu'à mon âge. Et j'ai vu cet homme, mais vraiment blêmir, trembler pratiquement, et lui dire, j'ai dit ça pour rire. Et j'ai vu cette puissance de ma mère reprendre des forces, vraiment c'était extraordinaire. Et j'ai cette image de la sorcière en moi, c'est pour ça que je les aime. Hein.
je souris parce que ma grand-mère, qui était catholique mais qui ne communiait pas, parce que le corps du Christ est quand même un petit peu sale, le seul saint qu'on priait dans la famille, c'était Saint Antoine.
Ah bah.
Et elle coupait le feu.
Elle coupait le feu.
On était dans ce.
Et bien voilà, on aurait pu en parler pendant des heures, mais on doit tenir l'horaire. Alors, merci à vous tous de vos romans, de vos éclairages et de vos contes. C'était déjà le conteur là qui s'exprimait, qui plongeait un petit peu dans cette histoire. Je vous conseille de poursuivre un peu cet entretien. Vous pouvez lire donc de Viviane Etrivert Masqui aux éditions Argemios. Le premier tome de La Voix de la sorcière, donc Fille des Quatre, de Cécile Guyot aux éditions Le Chat Noir. Et pour terminer sur le roman, Anne Fagouri, Narco-Genèse, un roman paru aux éditions de l'Atalante. Et évidemment, on peut regarder les nombreux ouvrages de Pierre Dubois. Je vous renvoie entre autres à l'édition là qui vient de sortir, pas cher, accessible, sympathique, chez Folio, Les Contes, vous y trouverez beaucoup de choses. À très bientôt et merci.
Merci à vous tous.